On va commencer. On a déjà un petit peu de retard, mais ce n'est pas grave puisque on a eu, comme certains d'entre vous et certaines d'entre vous le savent, on a eu deux annulations. Donc, on a été conduite à modifier le programme et à l'alléger un petit peu, mais ce qui va permettre aussi du coup d'avoir plus de temps pour les discussions. Donc, je voulais déjà commencer par remercier les intervenantes et les intervenants qui ont fait le déplacement, parfois même avec des béquilles. Donc, voilà, un merci spécial à Isabelle Léglise. Voilà. Et donc, pour introduire la journée, en fait, je voulais vous présenter un petit peu le contexte, en fait, dans lequel est née l'idée de cette journée d'études. Et puis aussi essayer de, voilà, d'ouvrir un peu les débats et les discussions qu'on va avoir aujourd'hui en évoquant sur un plan scientifique les objectifs qu'on avait en tête et puis peut-être les questionnements communs qui pourraient être les nôtres aujourd'hui. Je ne vais pas anticiper sur ce qui va être dit, mais ça sera une façon de lancer la journée. Donc l'idée de cette journée d'études est venue en fait d'une conjonction de raisons. La première raison, c'est qu'on a ouvert à la rentrée 2018 un nouveau parcours de master centré sur les questions de migration, donc un parcours qui s'appelle Migration Studies, qui est un parcours en anglais à partir du M2. Et donc notre idée était d'impliquer les étudiants dans des projets, et notamment dans des projets scientifiques, et donc en les faisant participer aux événements scientifiques de notre laboratoire. L'idée était un peu de les socialiser à ce que ça veut dire que de faire de la recherche et de débattre d'un certain nombre de sujets liés à leur champ de formation. Donc du coup, ce que je voudrais pour commencer, c'est les remercier en particulier le petit groupe d'étudiantes qui nous a aidés à participer, enfin à organiser la journée et qui va participer aussi à la présentation aujourd'hui des intervenants, etc. Alors plus sur le plan scientifique, pour revenir un peu sur ce qu'on avait en tête lorsqu'on on a décidé de monter cette journée. Alors à l'URMIS, il y a un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur la question nationale dans le champ de l'éducation, sur la question de la socialisation scolaire à la nation. Donc il y a des chercheurs qui travaillent plutôt sur des pays du Nord, dont je fais partie, puisque moi j'ai plutôt, mes terrains c'est plutôt la France, avec des comparaisons avec la Grande-Bretagne ou les États-Unis, mais enfin voilà, c'est plutôt des contextes occidentaux. Alors on a aussi des chercheurs, dont Aïda ici présente, qui travaillent sur des pays du Sud, et notamment on va écouter Aïda sur le cas du Belize cet après-midi. Voilà, et donc notre idée c'était d'initier, d'encourager des échanges, des dialogues entre des chercheurs qui travaillent sur le Nord et des chercheurs qui travaillent sur le Sud. Avec quand même le choix de centrer cette journée sur les pays du Sud. Alors pourquoi ? Eh bien parce que il me semble que dans le champ assez vaste de la sociologie de l'éducation, de l'histoire de l'éducation et plus généralement des sciences sociales de l'éducation en France, il y a finalement assez peu de dialogue entre chercheurs qui s'intéressent à des contextes du Nord et chercheurs qui s'intéressent à des contextes du Sud. Il me semble qu'il s'agit là de réseaux et de circuits de recherche qui sont assez peu connectés. Et c'est dommage, et on a quand même en France un regard souvent très franco-centré sur les systèmes scolaires, européo-centré au mieux, occidental-centré parfois, mais en tout cas ça reste vraiment beaucoup plus à l'échelle du Nord. Voilà, donc notre idée c'était de connecter davantage des chercheurs qui finalement posent un certain nombre de questions théoriques communes. En tout cas, il me semble, je vais y revenir dans un instant. Donc notre volonté, c'était aussi de s'intéresser au processus de construction de la nation et de reproduction des nations dans la période contemporaine, parce qu'on était parti du constat que les travaux sur la socialisation nationale avait surtout porté, enfin les travaux finalement classiques et canoniques dans ce champ-là, les travaux aussi sur le nationalisme plus largement, avaient porté sur le processus de construction des nations dans une ère occidentale et donc surtout au XIXe siècle et lors de la première moitié du XXe siècle. Donc notre idée, c'était de travailler non seulement sur les pays du Sud, mais aussi sur la période post-coloniale, post-indépendance, et donc avec un regard davantage sur la période plus contemporaine et plus récente. Alors on le verra que, évidemment, on le verra à travers certaines communications, évidemment que pour comprendre les configurations scolaires actuelles, il faut donner un peu d'épaisseur historique, et on verra notamment que c'est très important de revenir aussi sur la période coloniale. Alors, quand on organise une journée qui porte sur les systèmes scolaires du Sud, on a tout de suite en tête un certain nombre de spécificités de ces contextes du Sud par rapport à ceux du Nord. Dit très grossièrement, effectivement, ce qui saute aux yeux, a priori, c'est un certain nombre de points communs qui rassemblent les contextes scolaires du Sud et qui peut-être les opposent au Nord. La première chose, c'est qu'évidemment, les moyens économiques alloués à l'éducation sont plus faibles dans le Sud. La seconde chose, c'est que les taux de scolarisation, en tout cas si on s'intéresse à l'enseignement secondaire, sont souvent, dans certains contextes, plus faibles que dans le Nord. Surtout, ce qui nous intéressait, c'est que aborder les questions d'enseignement au Sud revient très souvent à poser la question postcoloniale. Et c'est, on va le voir dans les communications, et c'était un des objectifs que nous avions de se poser cette question-là, de la gestion de l'héritage postcolonial dans le champ scolaire. Alors bien sûr, la question postcoloniale, elle se pose aussi dans les pays du Nord d'une manière très différente, mais elle se pose aussi. La question dans les pays du Sud, l'enjeu a été quand même spécifique puisqu'il s'est agi avant les indépendances, mais aussi après les indépendances, pour un certain nombre de mouvements, pour un certain nombre d'acteurs, il s'est agi de décoloniser l'école. Et de lutter contre les formes d'impérialisme que les États, les nouveaux États issus de la décolonisation, avaient pu connaître par le passé et aussi dans leur présent. Donc ça a pris différentes formes, ces mouvements-là. Les communications vont sans doute illustrer les spécificités relatives à chacun des contextes. Je pense aussi qu'un axe un peu de problématisation commune sera le fait que, malgré ces volontés de remise en cause de l'héritage colonial, on constate aussi un certain nombre de pesanteurs et de permanence, de continuité, qu'il s'agit justement d'éclairer entre, d'un côté, les politiques scolaires coloniales et, de l'autre, les configurations scolaires post-coloniales. Alors, là, jusqu'à présent, j'évoque surtout, en fait, de manière très grossière, finalement, les différences qui peuvent exister entre les contextes scolaires du Sud et ceux du Nord. Mais moi, ce qui m'a surtout frappée en organisant cette journée et puis en lisant aussi un certain nombre de choses sur des systèmes scolaires du Sud, en lisant aussi les résumés de communication, donc je n'ai pas encore le détail un peu de ce que vous allez présenter, mais quand même, ce qui m'a frappée, c'est finalement un certain nombre de problématiques communes qui peuvent nous regrouper quand on travaille sur des pays du Nord ou sur des pays du Sud. Donc j'aimerais en indiquer quelques-unes ici. Alors déjà, je pense que quelque chose qui nous rassemble, c'est de s'interroger sur une tension centrale qui marque les politiques scolaires depuis la Seconde Guerre mondiale et bien avant d'ailleurs. C'est la tension entre, d'un côté, l'objectif dans les politiques d'enseignement de favoriser une forme d'unité politique, d'unité dite nationale dans certains cas, Voilà, c'est un objectif bien souvent central dans les politiques scolaires, mais de l'autre, c'est en tension avec une idée qui est de plus en plus présente, qui est celle de prendre en compte la diversité des publics scolaires. Voilà, quelle que soit la manière dont cette diversité est vue et appréhendée, hein, ça peut être une diversité comprise en des termes ethnoculturels, par exemple, linguistiques, sociaux, etc. Donc ça, il me semble que c'est un questionnement commun qui nous rassemble. La deuxième chose, c'est que, on avait indiqué ça hein, dans l'argumentaire, la deuxième chose, c'est que quand on s'intéresse à la socialisation scolaire, à la nation, on est tout de suite conduit à s'interroger sur les processus d'exclusion et d'inclusion qui la sous-tendent et qui la marquent. Et donc, les communications vont l'illustrer mieux que ce que je vais pouvoir faire, mais quand même, j'avais envie d'indiquer sur ce point-là plusieurs déclinaisons de cette problématique inclusion-exclusion autour de la question nationale. Donc beaucoup de communications vont s'intéresser en fait à la question des langues. On le verra. Alors des langues dites minoritaires, des langues dites régionales ou au contraire des langues présentées comme davantage communes ou des langues présentées comme nationales et qui donc ont une dimension plus unitaire. Donc sur ce point, on a une autre tension, il me semble, que l'on retrouve aussi bien au nord qu'au sud, entre finalement la dimension identitaire des langues. Le fait, par exemple, si on pense aux langues minoritaires, aux langues régionales, elles aient le fait que ces langues aient donné lieu à des demandes de reconnaissance de la part d'un certain nombre d'acteurs, parfois et souvent même des élites politiques et intellectuelles. Si on pense plutôt aux langues dites communes ou nationales, de fait, l'accent qui a pu être mis sur l'apprentissage d'une langue nationale ou commune, c'est bien souvent quelque chose qu'on a retrouvé hein, dans différents États, quelque chose qui a été au cœur des projets politiques pour l'école. Donc il y a cette dimension identitaire. Et qui me paraît être très souvent en tension. On voit très bien ça dans l'histoire française, par exemple, mais on le voit aussi dans les cas, il me semble, que vous allez aborder. Donc cette fonction identitaire des langues me paraît être en tension avec une autre fonction qui est celle des langues, mais qui est celle de l'école plus largement, qui est une fonction de sélection scolaire et sociale, la fonction en fait de distribution des places sociales qui est celle de l'école. Donc pour donner quelques exemples, bien sûr qu'il y a dans les populations parfois un usage majoritaire de langues régionales, par exemple, ou de langues minoritaires, mais en termes d'ascension sociale et d'ouverture des horizons sociaux, il est bien évident que dans ces populations, on a pu valoriser très fortement l'apprentissage de langues communes, de langues nationales, sinon même, en fait, l'apprentissage de la langue des anciens colonisateurs, hein, par exemple le français ou l'anglais. Autre enjeu, mais qui est lié un petit peu à ce que je dis, en tout cas qui... Un autre enjeu qui renvoie aussi à cette tension entre fonction identitaire de l'école et fonction de distribution des places sociales. Je pense que plus généralement, les discours scolaires sur la nation, les ambitions nationalistes qui peuvent caractériser les politiques d'enseignement, sont souvent une manière finalement de faire passer au second plan la question des inégalités en matière d'éducation. En tout cas, pour le cas français, c'est ce que j'avais plutôt tendance à poser comme hypothèse. Hein, donc de parler de la nation, c'est aussi souvent une façon de rechercher des formes de consensus idéologique, alors que justement, ce qui est patent, c'est un échec, j'allais dire relatif, mais pas du tout relatif en fait, un échec de l'école à traiter la question des inégalités scolaires. Et sur ça, le Nord n'a rien à envier au Sud, puisque la France, comme vous le savez, est plutôt championne des inégalités sociales en matière d'éducation. Des inégalités sociales, des inégalités liées à l'origine migratoire également. Et donc, cette finalité nationale a particulièrement été activée dans les périodes, en France et ailleurs, dans les périodes justement où il y avait une crise entre guillemets, de l'école sur les questions justement d'inégalité scolaire. En tout cas, ces deux enjeux que je viens d'évoquer montrent bien la nécessité de concevoir le caractère souvent contradictoire des finalités qui sont attribuées à l'enseignement, que l'on s'intéresse aux langues ou à d'autres aspects. Alors, autre problématique, mais aussi liée à cette question, à cette problématique de l'inclusion versus l'exclusion scolaire, l'articulation intéressante, à mon avis, dans la plupart des cas, questionner entre, d'un côté, le concept de nation et de l'autre, le concept de race. Autrement dit, pour beaucoup, je pense que l'on s'intéresse, alors on n'utilise pas forcément ce concept de race, mais pour beaucoup finalement, ça serait bien d'en discuter justement, on s'intéresse à la question de la racialisation de la nation, ou certains préféreront le terme d'ethnicisation de la nation et du discours porté sur la nation. Et donc, s'interroger sur les déclinaisons scolaires de ce processus-là me paraît particulièrement heuristique dans tous les cas. Et donc, cela revient à questionner les frontières ethno-raciales de la nation telles qu'elles se donnent à voir, par exemple, dans les contenus qui sont enseignés ou telles qu'elles se donnent à voir dans les identifications collectives que l'école encourage ou encore telles qu'elles se donnent à voir dans les politiques plus ou moins fortes d'égalisation des chances à l'école. Donc, dans quelle mesure la nation telle qu'elle est mise en forme et mise en scène à l'école fait apparaître des frontières ethniques, des frontières raciales. Alors, ça renvoie en fait à un débat beaucoup plus large qui dépasse en fait le champ de l'école, qui est un débat assez théorique aussi sur les liens entre d'un côté le nationalisme et de l'autre le racisme, avec des auteurs par exemple canoniques sur la question nationale. Je pense par exemple à Benedict Anderson qui tend plutôt à différencier très fortement les deux concepts, racisme et nationalisme, quand d'autres auteurs essayent plutôt, au contraire, de penser leur articulation, voire même leur affinité très forte. Donc ça, c'est peut-être aussi une problématique qui nous rassemble, qu'on travaille sur le Nord comme sur le Sud. Et enfin, pour finir, parce que je suis un peu trop longue, il me semble aussi, mais là, pour le coup, c'est quand même de manière assez différente d'un pays à l'autre, et peut-être aussi, quand on passe du nord au sud, ça s'exprime de manière assez contrastée. En tout cas, on est dans un contexte commun qui est celui de l'essor de normes éducatives et de politiques éducatives qui sont mondialisées. Mais je pense que ça n'a pas du tout le même sens quand même entre le Nord et le Sud, puisque c'est quand même globalement les institutions et les pouvoirs du Nord qui dictent aux pays du Sud ces normes éducatives mondialisées. Donc voilà, on est dans un rapport de pouvoir très inégal de ce point de vue-là. Mais il me semble quand même que les processus de transnationalisation de l'éducation, même s'ils sont très différents entre le Nord et le Sud, doivent faire l'objet d'une attention particulière. Alors, ça se décline dans différentes directions. Première direction, l'accent qui a pu être mis sur la reconnaissance de la diversité, il me semble que ça a été un axe important d'un certain nombre d'institutions internationales. Je pense par exemple à l'UNESCO, mais aussi les Nations Unies. La reconnaissance de la diversité, des minorités, de leurs besoins, etc. C'est quelque chose qui a été, sur lequel on a mis l'accent ces dernières décennies. Alors, ça n'a pas ça n'a pas toujours vraiment pénétré les réalités éducatives, hein, si on pense à la France par exemple, qui a resté assez éloignée de ce genre d'évolution, bien qu'elle reconnaisse un petit peu quand même davantage par exemple les langues régionales. Autre déclinaison de ce phénomène, on a de plus en plus un accent qui est mis sur finalement une vision néolibérale de l'éducation. Hein. Donc c'est très compliqué comme histoire, donc je ne voudrais pas être très longue, mais voilà, avec des politiques qui insistent sur la notion de compétence, hein, sur la question de la compétitivité pardon, des systèmes scolaires, sur la question de l'employabilité des travailleurs, sur leur capacité d'adaptation au marché du travail, aux structures économiques, etc. Donc peut-être que ça touche un peu plus les universités, cette question-là, mais il me semble que ça oriente aussi les systèmes scolaires. Et voilà. Et donc, je pense que dans plusieurs des communications, on verra très bien les enjeux de cette dimension transnationale. La transnationalisation de l'éducation est aussi du côté des familles. Donc je ne développe pas parce que je pense que la communication, en particulier d'Émilie Pontanier, le montrera bien, hein, que les familles, en particulier les familles des classes supérieures, ont aussi des stratégies scolaires qui dépassent très largement le champ de l'État-nation et qui sont mondialisées aujourd'hui. Donc voilà, je me tais parce que je voudrais surtout laisser la place à nos invités. Et je voulais, voilà, par ces questions-là, je voulais initier des débats. Et je pense que les débats, voilà, peut-être seront orientés sur d'autres axes que j'avais pas en tête. Mais c'était une manière de lancer nos travaux. Voilà, merci.